aujourd'hui, Dieu a une parole pour t'encourager parce que ça s'appelle la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et je suis toujours surpris en même temps, je souris quand des gens qui viennent pour la première fois à l'église viennent nous voir à la fin ou nous croisent dans le hall en disant « Hey, c'est la première fois que je viens, mais je veux vous dire, j'ai compris ce que vous disiez. » Je prends ça comme un compliment, mais pour eux, c'est comme « Hey, c'est comme compréhensible et je peux appliquer ces vérités entre guillemets spirituelles à ma vie aujourd'hui. » Et j'aimerais dire, c'est tellement ça l'évangile. Des fois, la religion a tellement mis des cadres et tellement mis des dogmes et des choses et dit « voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne peux pas faire, voici comment tu dois le faire » qu'en fait, on a complexifié l'évangile parce que Dieu, en fait, est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Je ne veux pas simplifier Dieu. Dieu est Dieu et nous sommes, Thérèse. Mais il nous a donné une partie d'une révélation qui est, elle, très simple. Mais parfois, le péché ou la religion a compliqué les choses et a comme mis une distance entre nous et lui en disant « il est incompréhensible, essaye même pas de chercher ». Et je pense dans un Québec aujourd'hui qui a subi une mauvaise nouvelle de l'évangile, aujourd'hui on reste distant en disant « non, tout ce qui est mystique, religieux, la foi, la Bible, l'Église, c'est un petit peu comme des choses qu'on ne comprendra pas ». Laisse-moi dire aujourd'hui que Dieu est bien plus compréhensible que tu ne le penses, que Dieu est bien plus proche de toi que tu ne le penses et que Dieu te donne un modèle sur lequel tu peux t'identifier. Parce que c'est ça la bonne nouvelle de Jésus, c'est que Jésus s'est fait homme, Dieu lui-même est devenu homme pendant 33 ans sur cette vie, il y a 2000 ans maintenant. Et Jésus était 100% Dieu, mais a décidé d'être, de vivre et de marcher ici sur cette humanité en tant qu'homme, 100% Dieu, mais également 100% homme. Et il a passé les mêmes épreuves que toi. Il a été tenté sur les mêmes tentations que toi. Il a vécu et subi les mêmes choses que tu subis aujourd'hui. Et c'est pour ça que lui ne les a pas seulement vécues, mais il les a vaincues. C'est la seule personne sur l'histoire de l'humanité qui a passé cette vie ici sans rien faire de mal, sans se détourner du plan de Dieu. Donc lui est le seul parfait qui, pour nous, est le modèle que nous pouvons suivre dans toutes les saisons de notre vie. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que peu importe ce que tu traverses en ce moment, même si c'est la pire des crises, tu peux regarder à la Bible et aux évangiles et regarder la vie de Jésus en disant « ça c'est mon modèle ». Et si lui a vécu et si lui a vaincu, il me donne par la puissance de son Saint-Esprit et par la puissance de la parole des outils et des clés pour pouvoir sortir victorieux de saisons de crise dans notre vie. Et ceux qui le savent et qui l'ont vécu, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous donne de vivre ? La foi chrétienne n'est pas destinée à être difficile. Ce n'est pas quelque chose de mystique auquel c'est tellement loin. Non, Dieu te comprend. Dieu compatit à ta souffrance. Dieu ne te juge pas quand tu te poses des questions sur lui. Dieu ne t'en veut pas quand tu es en colère contre une injustice qui se passe. Dieu te comprend et il veut te donner un modèle aujourd'hui sur lequel, dans les pressions que tu vis, dans les tentations par lesquelles tu passes, Dieu veut te donner la victoire. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tu es plus fort que tu ne le penses ». Regarde ton voisin quelque part et tu dis « Tu es plus fort que tu ne le penses ». Mais ce n'est pas comme « Hey, toi là, tu as tout en toi pour être le plus fort ». Non, non, non. En fait, l'évangile est simple à comprendre. C'est que si la force de Dieu est en moi, ce que Dieu m'appelle à faire, de vivre en lui avec la présence de Dieu dans mon cœur, je peux, moi, accomplir les choses qui, par mes propres forces, je serai incapable. Et l'évangile, c'est de justement faire la paix avec Dieu pour recevoir l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et je ne vais plus à l'église, je deviens l'église. Je suis quelqu'un qui peut apporter la lumière de Christ partout où je suis. Et même si on ne vit pas comme des gens parfaits, en fait, il n'y a personne ici, s'il y a quelqu'un de parfait, je lui laisse ma place tout de suite. Mais même si on n'est pas parfait, on sait que Dieu, lui, nous aide à marcher dans un chemin qui va de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est parfois difficile, c'est parfois on passe par des saisons de crise, justement, de la tentation, la pression, le mal qui vient, et puis on essaye de se garder bien, mais c'est difficile. Jésus nous comprend parce qu'il est passé au travers de cela, et il nous donne sa force pour que nous puissions être plus forts. On va regarder aujourd'hui un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, donc la deuxième partie de votre Bible. Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont comme l'Instagram de Jésus. Il nous montre en fait les vignettes de Jésus avec sa vie, son enseignement, sa mort, sa résurrection, les miracles qu'il a fait, les interactions qu'il a fait et aussi les moments où il était le plus vulnérable et le plus fragile. Et je vais vous le dire, Jésus, dans le texte qu'on va lire, est un modèle pour moi à tellement d'égards, mais pourtant c'était l'un des moments dans son humanité où il était le plus fragile, où il était le plus fatigué, où il était le plus... faible dans, dans son corps, son âme et aussi son esprit. On va regarder ensemble. Parce que ce n'est pas, Jésus n'a pas décidé de venir ici sur cette terre comme un super-héros, comme quelqu'un qui était invincible. Comme, non, oui, il était 100% Dieu, mais il a décidé de vivre l'entière humanité comme nous, de subir les mêmes pressions, d'être tenté en toute chose. Si en ce moment tu dis, ouais, mais il n'a pas vécu cette tentation, tu peux être certain que Jésus a vécu les tentations, même plus que toi, parce qu'il les vivait de manière spirituelle encore plus que toi. Il te comprend exactement dans tes crises. Mais lui n'est pas vu en tant que super-héros en disant « je suis invincible ». Au contraire, il a vécu l'humanité, il l'a subi également, mais il l'a vaincu. Je me souviens, il y a quelques années, j'emmenais mon fils Lenny, mon plus grand, au cinéma, et puis il avait 4-5 ans à cette époque-là. Et il y avait des previews de « voici les bandes-annonces des prochains films qui viennent ». Et à un moment donné, on voit une bande-annonce de Aquaman, et il me regarde, il me dit « hé, regarde, papa, c'est Jésus ». Voici, c'était ça la photo, tu sais. Et je dis, à part les cheveux longs, je ne sais pas à quoi il ressemblait Jésus là-bas, peut-être, là. Mais Jésus n'est pas venu avec un côté hyper, super héros et tout ça. Puis j'étais en train d'expliquer à mon fils dans le preview la théologie. Alors en fait, Jésus n'était pas comme ça. Là, c'est un peu plus le gréco-romain, c'est la mythologie. Blablabla. Mais à ce moment-là, pour lui, mon fils, puis je le comprends, je lui explique, moi, que Jésus est même plus fort que papa. Jésus est plus fort que tout. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui tient ta vie dans ses mains. Si tu as peur, tu vas à Jésus. Jésus a la victoire. Même le mal, même les tentations, peu importe, il a tout vécu. Donc pour lui, c'est l'homme, c'est la personne la plus forte du monde. Et c'est vrai. Mais quand il est venu sur cette humanité, il était comme vous et moi. Il était aussi fragile dans son humanité que vous et moi. Il a subi la faim, l'isolement, la trahison, la peur, la peine, comme vous et moi. Mais lui, il n'a péché en rien. C'est pour ça qu'il peut être notre modèle. Parce que lui, il a vaincu ce que toi, tu es en train de subir et même parfois de tomber. Mais parce que lui a vaincu à la croix, il a tout accompli. Nous pouvons venir en disant, si lui est mon modèle et si lui me donne par son esprit de vivre en nouveauté de vie, je peux accomplir et avoir la victoire sur mes combats. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus a été tenté en toutes choses. Mais alors c'est pour ça qu'il te comprend. Et on va regarder en ce moment à la tentation de Jésus dans le désert. Ce texte arrive au chapitre 4 du livre de Matthieu. On va le lire ensemble. Et Jésus est à son plus faible parce que après avoir été baptisé, le ciel s'est ouvert, la voix du Père s'est faite entendre en disant « voici, celui-ci est mon fils ». Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Comme la Trinité était à ce moment-là complètement réunie. C'était le début du ministère de Jésus. Il commençait à enseigner, il commençait à prendre ses disciples, à faire une équipe. Et au début de son ministère, il y avait un test qu'il devait passer. Alors l'Esprit l'a conduit dans le désert et là, il a été tenté par le diable lui-même. Vous savez, on croit qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui veut nous pardonner, qui veut nous sauver. Mais il faut aussi croire qu'il y a l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle Satan, qu'on appelle le diable. Et parfois, vous savez, on les met ensemble en disant « ah oui, Dieu et le diable, c'est les ennemis ». Ça n'a rien à voir. Parfois, on a une vision un peu mythologique de Zeus et Hadès, les frères jumeaux, et pendant une éternité, ils se battent. Non, pas du tout. Dieu est Dieu et Satan n'est qu'un ange déchu, donc une créature spirituelle. Oui, il est puissant, mais déjà à la croix, il a perdu. Ce qui fait que même encore aujourd'hui, même s'il a du pouvoir, il est déjà vaincu. Mais c'est pour ça qu'il veut essayer d'emmener le maximum avec lui dans sa descente, alors que nous devons nous tenir en disant, parce qu'il a été vaincu et parce que je suis plus que vainqueur, parce celui qui m'a aimé, je n'ai rien à craindre de ses tentations, de ses pressions et de ses combats. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui nous donne la victoire? On va regarder en ce moment le texte. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? On lit dans le chapitre 3 de Matthieu, la fin, et le chapitre 4. On y va ensemble. « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta alors dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça au sommet du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et en effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Ce texte est fort parce que les trois tentations que Jésus a vécues à ce moment-là peut résumer en fait toutes les tentations que vous vivez dans votre vie humaine. Toutes les tentations que vous dites « Ah ouais, mais moi c'est la drogue, et puis moi c'est le truc, et puis tout ça. » Peu importe, tout peut être résumé par ces tentations-là. Et puis j'ai trois mots pour vous pour les résumer. La première tentation, c'est la passion. La passion, les passions charnelles. La deuxième, c'est la position de Jésus sur le haut du temple et tout ça, poussé à se révéler. Et la troisième, c'est la possession. Voici le royaume et la richesse, et je peux te donner cela si tu m'adores. Jésus a été tenté et toutes nos tentations peuvent être résumées en passion, position, possession. On va regarder ensemble. La tentation, vous savez, dans la Bible, elle est définie comme une épreuve ou une séduction visant à amener une personne à pécher ou à s'écarter de la volonté de Dieu. Elle est souvent décrite comme une force qui incite l'homme à désobéir à Dieu en cédant à ses désirs plutôt que de se conformer au plan de Dieu. La tentation, et puis soyez bien clair avec moi, elle n'est pas péché. La tentation nous pousse à pécher. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'est jamais tombé dans le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pour ça que quand on est tenté, on peut regarder à Jésus parce qu'il nous comprend, il compatit avec nous, mais il nous donne une force pour que nous soyons plus forts. J'aime cette citation de saint Augustin qui dit « La tentation ne peut être évitée, mais elle peut être vaincue. » C'est pour ça que tu es plus fort que tu ne le penses, parce que par la force de Dieu en toi, tu peux tout accomplir parce que tu es appelé plus que vainqueur. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a trois types de tentations, parce que je ne veux pas sur-spiritualiser non plus les tentations. Certains vont dire « Oh, j'ai été tenté de voler. » C'est comme le diable qui me disait « Non, 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 le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, ce n'est pas Dieu. Le diable n'est qu'un ange déchu. Et même s'il est puissant, ce n'est pas lui qui est, avec ses démons, derrière toi tout le temps pour essayer de te faire tenter. Non. Oui, le diable est une des causes de tentation et de chute. Mais il y a aussi notre monde, l'environnement dans lequel nous vivons, notre culture, notre société. Si vous voyez, de génération en génération, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Il n'y a plus aucune vérité, tout est remis en cause. La société dans laquelle nous vivons nous pousse à être tentés à désobéir à Dieu. Mais aussi, il y a notre chair, ce qu'on appelle les passions charnelles. Notre chair, c'est tout ce qui en nous est désobéi à Dieu. C'est mon instinct de « si on me fait mal, j'ai envie de me venger ». Si je vois quelqu'un qui est autre que ma femme mais qui me séduit, eh bien je peux aller parce que mes pulsions sont là. Alors qu'en fait, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Notre chair, c'est pour ce que je voudrais dire, c'est la cause de tentation qui est le plus souvent la cause de tentation pour ta vie. C'est pas tant l'ennemi et le diable directement. Non, non. Là, on voit que le texte avec Jésus, c'était le diable lui-même parce que Jésus était à un niveau où il devait passer par ce test-là. Mais ne dis pas que c'est le diable et le démon qui te dit « Ah, regardez, pasteur, j'ai comme une pensée d'adultère, c'est le diable qui me crie. » Non, 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 c'est juste qu'il va falloir que tu coupes l'Internet à 23h le soir et que tu arrêtes de chatter avec du monde. Non, mais des fois, c'est juste parce qu'on sur-spiritualise. Mais il faut se responsabiliser aussi, apprendre des bonnes choses. Et Jésus va nous montrer dans ce texte comment combattre la tentation et comment rester vainqueur. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Je vous vois très attentif. Je sais que le public de 3h est tellement intellectuel. Je suis content, voilà. La passion, la position, la possession. Le premier, la passion. Jésus, ça fait 40 jours qu'il jeûne. Il s'est mis à part pour être rempli par le Saint-Esprit, pour avoir une direction, pour commencer son ministère. C'est pour ça que le jeûne c'est une pratique spirituelle de dire « je ne mangerai pas pour justement manger une nourriture spirituelle ». Donc c'est vraiment une mise à l'écart que Jésus fait et le temps de Dieu va être qu'à la fin du jeûne, Dieu va lui dire « Maintenant, c'est terminé, c'est pour ça qu'on voit les anges arriver et servir. » Mais alors que Jésus est là et qu'il a faim, c'est fort parce qu'on dit que le tentateur s'approcha au 40e jour. Je pense qu'il était déjà dans les parages au niveau du premier. Mais il a attendu que Jésus soit le plus faible physiquement, le plus faible émotionnellement, le plus faible spirituellement pour pouvoir venir et essayer de le tenter en disant « Hé, regarde, si tu as faim, tu as un désir normal, naturel, légitime. » Regarde, tu as la puissance de voir cette pierre-là et de la changer en pain. Et c'est vrai, parce que Jésus était Dieu, 100% Dieu. Il avait la capacité de le faire, mais il avait choisi de vivre l'humanité en subissant aussi la pression de l'humanité. Alors, en fait, Satan était en train de dire, ta passion charnelle, là, juste de changer ça, tu peux le faire, tu n'as pas besoin d'attendre le plan de Dieu. N'attends pas Dieu. Si en ce moment, tu as la capacité de prendre ce qui veut te satisfaire, fais-le. Le diable était en train de lui dire, n'attends pas le plan de Dieu, prends tout de suite ce que tu as besoin. Et c'est plusieurs de nos tentations à nous aujourd'hui. Je parle aussi peut-être pour mes amis célibataires en ce moment, qui vivent dans une société qui leur dit, t'as pas besoin d'attendre, t'as pas besoin d'attendre l'engagement, le mariage, ça, la chasteté, c'est tellement quelque chose du Moyen-Âge, ça. Vis ta vie, sois quelqu'un qui vit le plus d'expériences, comme ça tu vas avoir le plus de bagages, et puis tu vois. Alors qu'en fait, c'est complètement loin de la parole de Dieu. Le plan de Dieu, c'est fais-lui confiance, reste droit, reste droite, et au temps prévu, le timing de Dieu, Dieu n'arrive jamais en retard, c'est lui qui a l'horloge dans sa main. Donc ne crois pas qu'il arrive en retard ou qu'il m'a oublié ou pas, non, non, non. C'est juste qu'en ce moment, tu dois te tenir droit, même si c'est difficile, même si ça fait 40 jours que tu dis « c'est difficile, j'ai juste envie de changer les choses pour me satisfaire directement ». Le plan de Dieu n'arrive jamais en retard, mais toi, tu vas en ressortir plus que vainqueur si tu restes droit. J'ai vu trop de monde couper rapidement, prendre leur pain rapidement, et ensuite, des années après, se dire « mais si j'avais su, je n'aurais jamais fait ». Peut-être que Dieu, en ce moment, ne te donne pas ce que tu lui demandes parce qu'il veut t'éviter une relation toxique que si tu le prends maintenant, tu vas te retrouver dans quelques années en disant « qu'est-ce que j'ai fait ?» Écoute le plan de Dieu. Même s'il tarde, la promesse, attends-la, elle va s'accomplir. Le plan de Dieu, même s'il est difficile, mieux vaut être dans le désert avec Jésus que dans une oasis sans Jésus. Alors des fois, la tentation, c'est comme « je peux, je le veux, j'en ai besoin, je le prends ». Je me souviens alors que j'étais à l'ITF, justement, en train de faire mes cours bibliques pour devenir pasteur. J'étais dans un examen en première année, et alors que j'étais là, j'étais en train de faire mon examen, puis il y a une question, je ne me souvenais plus du tout c'était quoi. Et je vois que mon voisin est en train d'écrire. Et il y a une pensée dans ma tête qui me dit, tu sais, tu as besoin de la réponse, tu ne l'as pas. Tu as juste à faire un petit regard latéral, tu regardes sa réponse, et là tu marques. J'étais en train de devenir pasteur, vous allez me dire bravo. Bravo le gars spirituel. Mais pour vous montrer que ça arrive dans tous les cas, à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est exempté de tentation. Au contraire, on l'est tous. Et parfois, on l'est plus parce qu'on se tient droit devant Dieu. Jésus, juste après son baptême, après une grande victoire, l'ennemi vient et essaye de briser cela. Mais aussi avant une grande victoire, parce que Jésus commençait son ministère et il allait aller de ville en ville, de village en village. S'il était tombé là, tout aurait été avorté. Alors l'ennemi connaissait exactement le point charnière pour dire « je vais le faire tomber là ». Mais Jésus est resté droit. C'est pour ça qu'il a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, en ce moment, plus que tes besoins charnels, tu as besoin de pain spirituel. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, tu trouveras la patience. S'il te manque de patience et de maîtrise de soi, tu vas trouver dans la parole de Dieu la maîtrise de soi, tu vas lui demander. Par la communion avec le Saint-Esprit, il va te donner la force pour accomplir et passer au-delà de la tentation. Est-ce que quelqu'un qui l'a vécu peut applaudir pour encourager ceux qui ont besoin de l'entendre? Le diable attend le bon moment pour le faire. Mais toi, tu dois attendre le temps de Dieu pour pouvoir sortir de cela. Mais garde la foi. Dieu va te donner, va pourvoir en son temps exactement ce que tu as besoin. La deuxième tentation, après la passion, c'est la position. C'est fort parce que le diable prend Jésus et l'amène en haut du temple à Jérusalem. Et le temple était comme, entre guillemets, l'église à l'époque, mais c'était le lieu où la manifestation de la présence de Dieu se faisait. Alors, il l'emmène en haut. Je ne sais pas si vous avez le vertige comme moi, non? Je ne sais pas. Qui a le vertige? Moi, j'ai vu une vidéo cette semaine sur YouTube d'un gars qui faisait du parcours. On va la voir. Et j'avais des hauts le cœur, juste à penser aux hauteurs. Regardez, ils montent. Je ne sais pas, eux, ils s'amusent à faire ça. Moi, ça me terroriserait, OK? Et là, on va le voir. Il regarde un petit peu et il va sauter sur les briques là-bas. Et à chaque fois que je le regarde, mon cœur, il se lève. Je ne sais pas si c'est votre cas, là. Moi, les hauteurs, j'aime pas ça du tout, OK? C'est magnifique, mais quand même. C'était juste pour vous donner une petite image, OK? Le diable emmène Jésus en haut du temple et il lui dit, regarde, saute, parce qu'il est écrit dans la Bible et il cite le Deutéronome. Il cite un livre de l'Ancien Testament. C'est Satan qui cite la vérité. On va le voir ensuite. Il cite et il dit, hey, regarde, saute. Et quand je lisais ce verset-là au début de ma conversion, je pensais qu'en fait, l'ennemi essayait de juste dire à Jésus, finis ta vie là, maintenant, en fait. Et en fait, non, pas du tout. C'est que Satan savait que Jésus avait une mission bien particulière, de se révéler comme étant le Fils de Dieu et que le salut allait être révélé par Christ. Donc, il allait être acclamé comme Seigneur. Mais il voulait provoquer le temps de Dieu. Il disait en fait, saute, Parce que c'est sûr, les anges vont venir et ils vont pas permettre que Jésus tombe et meure. Donc, il va y avoir un miracle qui va se faire là, en haut du temple, à Jérusalem. Toutes les foules vont l'acclamer en disant, oh, c'est le Messie qu'on attend, regardez, c'est lui, c'est lui. Et là, Jésus allait être acclamé Seigneur avant de passer à la croix. Mais un Jésus sans croix, il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Qui pardonne nos péchés, le Seigneur ou le Sauveur? C'est le Sauveur qui, à la croix, devait passer souffrir. Avant d'être acclamé comme nous le faisons aujourd'hui, comme Seigneur de gloire, celui qui a vaincu la mort, il devait passer par la mort et la souffrance. Et c'est pour ça que le diable essaie de provoquer Jésus à avoir une position spirituelle avant que le temps de Dieu dise « c'est maintenant ». Peut-être en ce moment, c'est ta tentation de dire « hey, je vais prendre par moi-même, mais je vais prendre les devants. Je vais provoquer la situation pour que j'arrive. » Peut-être c'est dans ton appel spirituel où tu te dis « hey, on ne me reconnaît pas assez. Je vais moi-même prendre les devants. » Est-ce que tu provoques en ce moment Dieu? Est-ce que dans là où tu es, tu te dis « oh, je n'ai pas assez de reconnaissance ou d'influence, mais ma position, il faut qu'il la reconnaisse. Je vais provoquer. » Ne provoque pas Dieu. Attends le temps de Dieu. Jésus, plusieurs fois dans les évangiles, il dit « mon temps n'est pas encore arrivé, mon heure n'est pas encore arrivée. » Il savait que le temps était compté par Dieu. Mais ne provoque pas Dieu, parce que Satan, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a essayé de pousser Jésus à prendre les devants sur son appel. Jamais que nous puissions nous dire « mais regarde, je vais diriger moi-même, je vais suivre ma propre volonté parce qu'un peu ça tarde. » Non, fais confiance, le timing de Dieu est parfait. La troisième tentation que Jésus a subie, c'est la possession. Le diable le prend encore sur une haute montagne et il lui dit « maintenant voici tous les royaumes ». Et il leur montre leur gloire, leur richesse. Et il dit « je peux te le donner si tu te prosternes devant moi ». La même chose qu'il a proposé à Abraham des milliers d'années avant en disant « hey, tu peux garder les richesses, mais donne-moi les âmes. Je veux l'adoration ». Satan, ce qu'il a fait quitter le royaume de Dieu, c'est qu'il a voulu l'adoration et il s'en est orgueilli. Il a dit « au lieu d'adorer le Créateur, je veux qu'on m'adore moi ». Et son orgueil a fait qu'il a eu, il a été déchu, un ange déchu, et il a pris le tiers des anges avec lui, la Bible nous dit. Donc ce qui fait qu'il a été déchu est sur la terre. En fait, ce qu'il proposait à Jésus, c'était ce qu'il avait volé à Adam et Ève dans le jardin. Parce qu'eux étaient appelés à régner. Alors qu'en fait, le diable a volé, a menti, a fait, c'est le père du mensonge, il ne sait faire que ça. Et alors qu'il est là, il propose à Jésus quelque chose qu'il a sans doute tenté. Dans notre humanité, Jésus n'a pas été comme « non, ça ne m'intéresse pas, voici ce qui est dit ». Je voyais toujours Jésus comme ça, un petit peu impassible. Non, je vous le dis, Jésus a sans doute comme vous et moi quand on est devant la tentation en disant oh, « hey, la richesse, les possessions, wow, l'affluence, la gloire, les Grammys, les wow, si je pouvais être comme telle célébrité, ma vie serait comblée. Ma vie. » Est-ce que ça vous a jamais tenté? Non? Si ça vous a jamais tenté, je vous laisse le stage. Mais on a tous été comme, ah ouais, mais plus de richesse, c'est ça qui ferait mon bonheur. Alors que Jésus, dans son humanité, avait laissé la gloire dans le ciel et était venu vivre et en fait subir notre humanité. Mais Jésus a été capable de résister à cette tentation parce qu'il savait que les richesses éternelles lui attendaient. Il était prêt à mettre en pause sa gloire et sa richesse sur cette terre parce qu'il savait que les richesses spirituelles étaient bien plus grandes. C'est pour ça que Jésus va lui dire « Non, 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 c'est pas toi que je vais adorer. C'est pas les richesses ou les gloires qui vont me faire changer mon adoration. Je ne devrais une adoration qu'au Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Créateur de toutes choses. Parce que peu importe ce que tu me proposes, c'est rien comparé aux bénédictions que Dieu me réserve. » Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins? Qu'est-ce que l'ennemi ou qu'est-ce que la société te propose juste pour changer ton adoration? Pour que Dieu ne soit plus à la première place, mais que les bénédictions peut-être de Dieu soient à la première place. Et que la possession de toi, en fait, ça soit comme ben, j'ai abandonné le feu de mon premier amour pour juste me détourner et essayer d'avoir le plus possible. Si tu te réveilles le matin en essayant d'avoir plus d'argent et si tu te couches le soir en étant déçu d'avoir pas fait assez d'argent, peut-être que c'est ton Dieu en ce moment. Ou est-ce qu'en ce moment, tu te réveilles en disant « hé, je suis en vie aujourd'hui, puis je veux juste remercier Dieu, et puis aide-moi à être un témoignage vivant aujourd'hui, et puis amène-moi à briller pour que les gens autour de moi ressentent ton amour, entendent parler de la bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'on est appelé à faire. Oui, si tu es prospère dans tes affaires, tant mieux, Dieu te donne une bénédiction, mais fais attention, ne recherche jamais les bénédictions de Dieu avant Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse et contre le fait que tu prospères et que tu réussisses, mais il est contre ta recherche première de prospérité et de richesse. Et il y a même des évangiles aujourd'hui, des gens qui proclament des évangiles de prospérité comme quoi, si en ce moment tu n'es pas assez dans telle catégorie sociale et que tu ne gagnes pas assez, ben c'est que Dieu te maudit en ce moment. C'est faux, complètement. Si l'évangile de prospérité était vrai, Paul n'aurait pas fini sa vie en prison seul. Il aurait été multimilliardaire. Vous êtes vrais ou pas? Les disciples ne seraient pas morts comme cela. Jésus n'aurait... Non, notre humanité n'est pas juste là à la recherche de la prospérité et de la richesse. Non. Le premier but de ta vie aujourd'hui, c'est de honorer et de glorifier Dieu là où tu es. Ça peut être dans la plus basse classe sociale, ce n'est pas grave. Remercie Dieu pour qui tu es. Dans ta vie, tu peux amener l'évangile dans une partie de la société qui a tellement besoin. Et c'est ce qu'on essaie de faire en aidant les plus démunis, en étant auprès des riches comme des pauvres, parce que Jésus s'est tenu pour les riches, pour les pauvres à la croix. Il était là pour tout le monde. Pour les saints et pour les pécheurs, pour tout le monde, Jésus s'est tenu. Et nous devons témoigner cette bonne nouvelle à la société en général, à tout le monde. C'est pour ça qu'il fait exception de personne. Mais tiens-toi dans la tentation de posséder plus, tiens-toi droit devant Dieu. Parce qu'il a en réserve pour toi des bénédictions que tu peux même pas imaginer. J'ai ri alors que j'ai lu un article cette semaine. C'est une dame, il y a l'article qui arrive, elle trouve un sac contenant 15 000 $, le rend à la police, puis repart avec plus de 80 000 $. Début janvier, Diane Gordon est tombée nez à nez sur un sac en plastique avec une grosse somme d'argent. Dedans, 15 000 $ en espèces. À l'intérieur du sac, il y avait aussi des cartes de mariage. C'était des cadeaux d'un mariage qui avait eu lieu ce jour-là. Elle a donc choisi de directement appeler un policier, le lieutenant Matthew Ivory, qui assure que cela n'a jamais vraiment traversé l'esprit de Diane que de faire autre chose que de le retourner. Le lieutenant a retrouvé les jeunes mariés à qui appartenait leur argent et leur a rendu le butin. Puis, la femme de l'un des officiers, touchée par l'histoire de Diane, a décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne sur GoFundMe. Le but, contribuer à l'achat d'une voiture pour Diane pour qu'elle puisse aller au travail, parce qu'elle y allait à pied, mais aussi pour qu'elle puisse aller voir des compétitions sportives de ses petits-enfants. En une semaine, alors que 25 000 $ étaient initialement demandés, plus de 80 000 $ ont été déjà récoltés par environ 3 000 donateurs. Contactée par la presse locale, Diane avoue être sidérée et répète qu'elle n'a rien fait de spécial. Oui, tu t'es tenue pour l'intégrité, tu as honoré Dieu dans ses valeurs et c'est ça qui a fait que tu as reçu plus. Est-ce qu'on peut applaudir Diane, même si elle ne t'entend pas? Mais il y a plusieurs Diane ici qui se disent « j'aurais peut-être dû garder le sac ». Seigneur, merci, c'était exactement 15 000 $ que j'avais besoin. Des fois, tu changes ta théologie juste pour essayer de rentrer dans... Non, vous n'avez jamais fait ça? Oh, mais je vais même payer la dîme sur ces 15 000 $. Non, rends tout, c'est pas à toi, c'est du vol. Mais parfois, on est attiré par le côté où... Oh, si je trouve un sac... Souvent, moi, je me fais des films avec mon fils, on regarde un film, tu rendrais le sac? Mais je pense que je me poserai deux fois la question en disant, c'est peut-être quelque chose que... Mais il faut que je me tienne dans la présence de Dieu et dans sa parole. Parce qu'il faut que je puisse être devant Dieu en disant, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour t'honorer toi. Et même si ça a été difficile, même si au bout de 40 jours, j'aurais juste envie de... ça serait plus simple. Moi, je veux, à la fin de ma vie, me tenir devant Dieu et qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a plein de combines à avoir ici pour gagner plus d'argent, pour faire de l'argent sale et tout ça. Et puis je vous le dis, il y a des gens qui viennent nous voir des fois qui nous confessent, pasteur, vous savez, on m'a proposé ça et puis tout ça. Et il n'y a aucune condamnation si tu fais ça en ce moment. Mais il y a juste une invitation de Dieu qui dit, arrête et retourne dans le plan initial que j'ai prévu pour toi, la pureté, l'intégrité. Parce que ce que j'ai dans ce plan-là, ce n'est pas forcément facile, mais ce que j'ai là, ici, va beaucoup plus te bénir que n'importe quelle petite magouille que tu es en train de faire. Reviens dans le bon plan, essaye de payer tes taxes, paye tes impôts que tu dois. Même si tu dis, mais c'est pas logique que le gouvernement... peu importe, les lois et les autorités sont là, tu vas pas les changer. À part peut-être dans ton bulletin de vote la prochaine fois, mais paye tes impôts en ce moment. Fais ce que la loi te demande de faire. Arrête de se dire, non mais je suis tenté, alors je le fais, c'est au-dessus de mes forces, j'arrive pas à résister. En ce moment, Dieu te montre par Jésus-Christ que peu importe les tentations que tu fais face, Dieu te donne la capacité d'en sortir vainqueur. Parce que si tu sais que tu dépends de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force de passer au-dessus des tentations et de rester droit et intègre devant Dieu. Et pour toi et les générations qui te suivent. Je veux jamais que mon fils un jour me regarde en disant, hey, papa, est-ce que toi aussi, mon ami, il a fait ça, et puis la voiture, il a payé moins, puis les taxes, et puis tout ça. Et puis que je ne sache pas quoi lui répondre parce que, papa, il a déjà fait ça. Non, je veux me tenir droit devant lui en disant, moi, là, j'ai besoin du Sauveur Jésus. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de faire au maximum pour que je puisse honorer Dieu dans ma vie. Et je ne suis pas parfait aucunement. Mais je veux être un modèle pour les gens autour de moi, pour me dire, hey, ce n'est pas impossible. Parce que si tu dépends de la force de Dieu, Dieu va te donner la force, Dieu va te donner la victoire. Et je veux vraiment réveiller quelqu'un en ce moment qui a besoin d'entendre. Tu n'es pas destiné à reproduire le pattern dans lequel tu es depuis des années. S'il y a un péché en ce moment, la tentation t'emmène dans quelque chose, tu peux le briser dans le nom de Jésus en disant, si à la croix, il a tout accompli, je vais step up et je vais marcher dans l'intégrité. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi, même s'il y a toujours une tentation, je ferai comme Jésus. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses ta parole. Jésus n'a pas commencé à trouver des arguments ici et là, les contextes. À chaque fois que le diable l'a tenté à quelque chose, Jésus, il a dit, il est écrit. La parole de Dieu, c'est ça qui est l'épée de l'esprit. Tu ne peux pas combattre l'ennemi sans la parole de Dieu. Tu peux prendre beaucoup de coups, oui, mais la seule manière de pouvoir le faire taire, c'est pas en citant la parole. Et ce n'est pas un remède magique où tu vas sortir des formules magiques. C'est que tu parles d'une parole qui est vivante, qui est spirituelle. C'est pour ça que l'ennemi essaie que tu la lises de moins en moins. Le péché te gardera loin de ta Bible ou ta Bible te gardera loin du péché. Choisis. Alors, au ce moment, si tu dis, hey, je ne connais pas assez la Bible, je ne sais même pas c'est quoi les versets. Eh bien, bonne nouvelle, commence à lire avec nous. On n'est pas ici pour juste se dire, hey, reviens dimanche prochain, puis on aura la victoire une semaine à la fois. Chaque jour, tu as accès à cette parole. Chaque jour, tu as accès, ou quand les tentations sont là, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Mais voilà, la parole de Dieu me dit que je peux résister à toutes les tentations parce que dans toutes les tentations, jamais Dieu permettra que ce soit au-delà de mes forces. Et avec toute tentation, toute épreuve, il me donnera une porte de sortie pour en sortir vainqueur. Et ce n'est pas le contexte qui me dit « Ah, c'est difficile, c'est compliqué, ça fait des années. » La parole de Dieu me dit que si je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'il y en a qui peuvent applaudir notre Dieu qui nous donne la victoire? Quand je regardais, je me disais « Quel guts le diable a eu de venir provoquer Jésus, qui est la parole incarnée, avec une parole qui est vérité. » Mais c'est fort parce qu'on dit, hey, le diable a cité la Bible. Et il l'a cité vraiment telle qu'elle, c'est juste qu'il l'a mal citée. Et vous savez, une grande vérité avec un petit peu de mensonge, ça fait quoi? Un grand mensonge. Si l'ennemi est venu essayer de tenter Jésus par la parole, qu'est-ce qu'il fait avec toi et moi? Si Jésus ne connaissait pas la parole, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce que dans ta vie, des fois, tu crois que ça vient de Dieu alors qu'en fait, c'est complètement loin de lui? Il y a des choses que tu dis, ah ouais, mais garde la parole, c'est un petit peu difficile. On va laisser ça au pasteur pour qu'il digère tout ça et puis il nous la donne. Oui, c'est aussi un de nos appels. Mais je crois que tu passes à côté de beaucoup de bénédictions, beaucoup de victoires, beaucoup de faveurs de Dieu si tu ne connais pas ta parole. Je ne peux pas battre tes combats à 23h30 le mercredi soir. Je ne peux pas. Personne ici ne peut. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit et ta parole que tu peux tenir en disant, hey, non, je ne retournerai pas dans ce pattern-là. Non, j'arrêterai d'essayer de voler le maximum. Et faire... Non, non, je sais que Dieu me veut à cet endroit-là, je ne serai pas ailleurs. Mais si tu ne connais pas la parole, tu ne connaîtras pas le plan de Dieu pour toi et comment t'en sortir. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au nom de Dieu qui étaient complètement loin de Dieu. Cette semaine, je regardais un article qui parlait que dans les années 1800, il y a des gens de l'Église qui donnaient aux esclaves, qui leur demandaient une Bible. Mais on l'appelait la Bible des esclaves. Et la Bible des esclaves, ce qui était fort, parce qu'ils avaient enlevé 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau. Tous les passages qui parlaient que les esclaves devaient être libérés, que le peuple d'Israël, qui avait été esclave pendant 400 ans en Égypte, avait été libéré, que Dieu ne voulait pas qu'il y ait aucun captif, ils avaient tout enlevé ça. Pour donner aux esclaves une Bible qui était en fait falsifiée. Parce qu'il disait, tenez, vous voulez la spiritualité, allez-y. Vous voulez continuer à adorer Dieu, tenez, ça c'est la Bible. Ils avaient complètement tout enlevé. Mais ce qui est fou avec la parole de Dieu, c'est que même avec la Bible falsifiée, ils arrivaient quand même à comprendre l'espoir que Dieu avait pour eux. Et même si la Bible était complètement avec une vérité, mais complètement un mensonge, parce que dans le Nouveau Testament, il y a des passages comme dans Corinthiens, comme Galates, qui dit « Vous n'êtes plus appelés à être esclaves, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître. Nous sommes tous devant Dieu importants. » Et Jésus a donné sa vie pour l'esclave comme pour le maître. C'est ça que l'Évangile nous donne, d'être non seulement libérés de nos chaînes spirituelles, mais aussi de travailler pour que les captifs aujourd'hui soient libérés, pour que personne ne soit soumis, soit condamné. Mais la Bible avait été prise pour justement montrer un côté où voici, il n'y a aucune liberté là-dedans. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, si tu as une Bible falsifiée, il va falloir que tu la changes. Et si tu n'en as pas, viens, on va t'en donner une. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est claire, elle est certaine, elle est spirituelle. Ce n'est pas juste un livre qui a été écrit il y a des millénaires et puis c'est pour une belle petite poésie. C'est une vérité que tu as besoin dans ta vie, pour chaque saison de ta vie. À chaque fois que je la lis le matin, même si je l'enseigne depuis des années, je vous le dis, je prie, Seigneur, révèle ta parole à moi. Et c'est une parole qui me vient me toucher cette semaine. Je vous ouvre mon cœur, mais c'est tellement, je pense, c'est important. Avec Sophie, le matin, on a une discussion qui est comme animée, puis on n'est pas d'accord sur les choses. Et elle me lance, va lire ta Bible aujourd'hui. Mais là, j'ai pas pris ça comme un encouragement. Je fais comme, quoi? Moi, le pasteur, non, tu me dis pas ça. T'sais. Mais je suis parti marcher, puis j'ai ouvert ma Bible. Exactement dans le proverbe du jour que je lisais, Dieu est venu mettre le doigt sur exactement la chose. Je suis arrivé, excuse-moi chérie, voici, ce matin, je me suis emporté. La parole venait de me parler. Personne d'autre, ni même ma femme, n'aurait pu me ramener à la raison. Je n'étais pas fou non plus là. Mais j'étais tellement dans je ne voyais que mon angle. Tu sais, il y a un angle mort des fois que tu vois. Il y avait quelque chose que je ne voyais pas et personne n'aurait pu me raisonner. Seulement la parole de Dieu qui l'a fait. Il y a quelque chose de fort quand tu ouvres ta Bible et que tu dis, Seigneur, je veux lire ta Bible, mais que ta Bible me lise. Lis-moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? La Bible est un trésor inestimable. Et des fois, Dieu te donne des victoires, des clés que tu ne te prends pas parce que tu ne prends pas du temps dans sa parole. Si l'ennemi est venu en citant la parole avec un contexte différent pour essayer de mentir et provoquer Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec vous et moi? Il faut qu'on connaisse la parole de vérité. Si en ce moment tu dis, j'arrive même pas à la comprendre, j'essaie de la lire, il y a un groupe encore en ce moment à Nouvelle Vie qui est « Comprends-tu ce que tu lis ?» Si en ce moment tu dis, non, mais je la comprends, mais j'aimerais l'étudier plus, il y a ITF peut-être pour toi. Est-ce que c'est le prochain step pour toi en ce moment? Nous sommes tous appelés à monter dans notre compréhension. Et si c'est une compréhension qu'on a, peut-être c'est d'aider les autres dans l'ABC de la foi, à comprendre les principes de la parole de Dieu, à commencer à les enseigner. Qu'est-ce qu'en ce moment Dieu veut que tu te dises, allez, next step, mais que tu dis, ah, je ne suis pas encore. Et combat en ce moment le bon combat de la foi. S'il y a des tentations autour de toi dans ta vie, puis que tu pries, prêche la parole de Dieu. Parce que si Jésus est mort sur cette croix, il est mort aussi pour tes doutes et les tentations et les choses que tu vis en ce moment. Et il a dit, j'ai tout accompli ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, tentés. Vous tous qui êtes brisés, venez. Et c'est en moi que vous allez retrouver du repos. Les tentations sont un test. Et il faut que nous nous rapprochions de Dieu pour réussir ce test en disant, Seigneur, c'est par ta force que je veux être fort. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant alors que je vais prier pour vous? Aujourd'hui, c'est un message qui est comme confrontant, mais en même temps, c'est tellement important. Parce qu'il n'y a pas une semaine où on passe sans être tenté par ici, par là, par plein de choses. Nous sommes tous tentés, tout le temps, mais tous différemment. Mais Jésus a comme montré, voici, la réponse à toutes les tentations, c'est « Il est écrit ». La parole de Dieu dit cela. Le plan de Dieu pour moi, c'est cela. Je ne dérogerai pas d'à droite ou de gauche. Non, je resterai dans le plan de Dieu. Si en ce moment, tu dis hey, « trop souvent, j'ai voulu revenir dans le plan de Dieu, mais à chaque fois, je retombais dans le même pattern. On va prier pour toi. Et tu vas proclamer ta délivrance aujourd'hui parce qu'à la croix, Jésus, son sang a coulé pour que le péché ne puisse plus avoir d'emprise sur toi. Alors, tu n'es pas destiné à rester esclave du péché, au contraire. Tu peux te lever aujourd'hui en disant, « Hé, je ne vais pas être parfait, mais je vais laisser celui qui est parfait remplir mon cœur, mes pensées et me donner une force qui vient de lui. » Et je crois réellement qu'aujourd'hui, il y en a qui vont vivre des avant et des après, de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Si tu comprends que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, ta culpabilité, ton manque de jugement, ben viens et reviens à la croix. Dis-lui, je te redemande pardon, Seigneur, pour ma vie qui est un petit peu bancale en ce moment. Mais je comprends ta grâce aussi. Tu n'as pas arrêté de m'aimer quand moi je m'en allais loin de toi. Tu as continué de me poursuivre et encore aujourd'hui, tu me parles. Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux me reconsacrer à toi et je veux te demander. Je ne veux plus combattre par mes forces, mais je veux combattre par les tiennes. Donne-moi, Seigneur Jésus, une compréhension de ta parole et ouvre par ton esprit mes yeux pour que quand je lise ta parole, tu viennes me parler exactement comme j'en ai besoin. Et si en ce moment tu dis peut-être je suis seul puis j'ai personne à qui parler, Dieu t'a donné une église ici, Dieu t'a donné une famille. On n'est pas juste là pour venir à un dimanche, à une célébration, applaudir et puis repartir chez nous. Non, on est un corps qui marche ensemble. Si en ce moment, tu es faible, eh bien, il y a quelqu'un autour de toi qui peut te soutenir. Si en ce moment, tu te dis, je me pose des questions, bien, il y a quelqu'un en ce moment qui a les réponses à tes questions. Nous sommes une famille, nous voulons marcher ensemble. Alors, je t'encourage peut-être à faire un pas vers quelqu'un en disant, j'ai besoin peut-être de conseils, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'amis chrétiens pour pouvoir m'encourager à vivre cela. Je crois que Dieu nous donne l'église locale comme une des réponses pour notre besoin ici spirituel. Alors merci Seigneur pour ce que tu fais dans cette matinée. Merci parce que Jésus est notre modèle parfait. Merci parce que le diable, le père du mensonge, essaiera toute notre vie de nous enlever de toi. Mais si on se rapproche de la croix et qu'on est rempli de l'esprit en suivant ta parole, Seigneur, nous serons plus que vainqueurs parce que ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni la maladie, ni les tentations ne pourront nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, on te dit, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons encore plus te ressembler. Alors, fais de nous des témoins et des lumières pour que le monde puisse voir que tu vis en nous. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu a fait ce matin?